السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en cette soirée du mercredi 20 ذو القعدة 1434 de l'Hégire, correspondant au 25 septembre 2013 بإذن الله تعالى. Donc nous sommes inshallah تعالى avec le quatrième cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah. Je résume vite un peu ce qu'on a dit dans le troisième cours pour commencer, inshallah ta'ala, le quatrième. On avait dit que Tawhid se divisait en trois groupes. Tawhid de la seigneurie, et Tawhid de la divinité, et Tawhid des noms et des attributs. Tawhid de la seigneurie, c'est Tawhid al-Rububiyya. Et Tawhid de la divinité, c'est Tawhid al-Uluhiyya. On avait dit qu'il s'appelle aussi Tawhid al-Ilahiyya. Qu'il s'appelait aussi Tawhid al-Ibada. Et ensuite, on a le Tawhid des noms et des attributs. On avait dit aussi que Ahl-Sunnah al-Jama'a divisait le Tawhid en trois groupes. Et que quelques-uns avaient ajouté une quatrième sorte, qu'ils ont appelé le tawhid du jugement, tawhid al-hukm. Et on avait dit que ce sont les mubtadi'a qui font ainsi, et qui disent qu'il y a une quatrième sorte qui s'appelle tawhid al-hukm. Certains de Ahl-Sunnah, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, rahimahullah, ont permis un quatrième groupe qu'ils l'ont appelé Tawhid al-Ittiba, le Tawhid, l'unicité du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il fallait ajouter une quatrième sorte, alors on aurait ajouté le Tawhid du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jamais qui est yani le Tawhid qui est une sorte de Tawhid des Mubtadi'a. Tayyib, on avait dit aussi que le tawhid de la seigneurie, Rububiyya, c'est attesté que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de l'univers. Ça vient du mot Rabb, le Seigneur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous ôte les âmes, c'est lui qui régit l'univers, c'est lui qui fait tomber la pluie, des maladies, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne le rizq. Et comme ça. Et on avait dit aussi, d'autre façon, que le tawhid de la seigneurie, c'est tawhid subhanahu wa ta'ala avec ses actes à lui. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Naam. Contrairement à tawhid, la divinité, ibada, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos actes à nous. C'est nous qui prions pour Allah. C'est nous qui faisons des doigts à Allah. C'est nous qui égorgeons pour Allah. C'est nous qui faisons l'aumône pour le visage d'Allah. Et comme ça. Donc la différence entre le tawhid de la seigneurie et le tawhid de la divinité consiste à dire que le tawhid de la seigneurie, c'est faire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses actes à lui. Quant au tawhid de la divinité, c'est faire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos actes à nous. C'est nous qui prions pour lui, c'est nous qui nous prosternons pour lui, c'est nous qui faisons ceci et cela. Reste le tawhid et des attributs, on en parlera quand on arrivera à ce point, inshallah ta'ala. Nous avons cité aussi une chose importante, et c'est avec laquelle nous allons, inshallah ta'ala, terminer notre révision, c'est de dire quoi? C'est de dire que le tawhid de la seigneurie, pour celui qui fait l'unicité de la seigneurie, ne lui suffit pas pour faire de lui un musulman, et encore moins pour l'épargner de l'enfer et le faire entrer au paradis. Le tawhid de la seigneurie est une condition du tawhid, mais ne suffit pas. Il faut lui ajouter le tawhid de la divinité, naam, pour être un musulman, et aussi bien sûr le tawhid des noms et des attributs. Car vous allez voir dans ce cours-là que tous les gens, inchallah ta'ala, font, et on l'a vu aussi, font le tawhid de la seigneurie. Et malgré cela, ce sont des kuffars. Et quant au cours d'aujourd'hui, Allah ta'ala, on va commencer, inchallah ta'ala, le titre, c'est le titre, bi'idhnillahi ta'ala, c'est l'acceptation, na'afoun. Il y a une faute. Une seconde, je corrige vite. Une seconde, je corrige vite. Bon. Donc, des deux. Pourtant, j'ai cru avoir corrigé. Maalesh. Une seconde. Voilà. Inch'Allah ta'ala que maintenant, j'ai corrigé. Donc, je corrige le titre, je dis, c'est l'acception. Et non pas l'acceptation. L'acception du terme Seigneur, Rabb. Dans le Coran et la Sunna, que dans les conceptions des communautés égarées. Naam. On va voir, yani, le mot Seigneur, naam, comment qu'il est utilisé dans le Coran et la Sunna et quel est son sens, ainsi que dans les conceptions des communautés égarées. L'origine du terme Rabb, il est le nom d'action du verbe Rabba en arabe. Rabba, qui conjugué donne Yarubbo. Rabba, Yarubbo. Ce verbe signifie former ou bien faire croître quelque chose d'un état à un autre, jusqu'à l'atteinte de l'état fini. Rabba yarubbu, c'est-à-dire on prend une chose et on la fait croître jusqu'à ce qu'elle devienne, yani, à l'état fini. On dit en arabe, Rabbahu, 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 il la fait croître. Alors le terme Rabb, est un nom d'action utilisé pour désigner celui qui fait l'action. De plus, le terme Rabb n'est utilisé dans l'absolu qu'en parlant d'Allah Azzawajal, celui qui se charge de toutes choses bénéfiques aux créatures. Le mot Rabb, si on dit Rabb seulement, il ne peut être utilisé qu'en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à si tu dis par exemple Rabbu al-manzil, Rabbu la maison, Rabbu Sayyara, Rabbu Kada, ça c'est permis, on va le voir. Sinon, si tu dis seulement Rabb, on ne peut l'utiliser ce mot-là qu'en parlant d'Allah subhanahu azzawajal. Allah ta'ala dit dans le Coran, Rabbul alamin, alhamdulillahi, Rabbil alamin. Il a dit Rabbil alamin, le Seigneur de l'univers. Ou bien le Seigneur des mondes, l'alamin, pluriel de alam. Naam, le monde des animaux, le monde des plantes, le monde est comme ça. Allah Ta'ala, c'est le Seigneur de tous les mondes, de tous les mondes. Il y a différents, il y a des milliers de mondes, naam, dans cet univers. Allah Azza wa Jal, c'est lui leur Seigneur. C'est lui leur Seigneur. Et aussi, sur Shu'ara, il a dit, Rabbukum wa abaikum al-awwalin, votre Seigneur est le Seigneur plus ancien en scène. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Terme, je dis, n'est utilisé pour désigner autre qu'Allah Azzawajal. Si on veut l'utiliser pour désigner autre qu'Allah Azzawajal, là, il doit être accompagné d'un complément qui limite la signification du terme. Sinon, c'est interdit d'utiliser ce mot Rabb, sauf pour Allah Azzawajal. Mais si on veut l'utiliser pour autre qu'Allah Azzawajal, on doit lui ajouter le complément qui limite la signification du terme. Par exemple, on va dire Rabbu Dar, Rabbu Ad-dar, c'est-à-dire le maître ou bien le propriétaire de la maison. Rabbu Ad-dar. Mais si je te dis par exemple, c'est la maison ici, c'est qui Rabbu Ad-dar? C'est qui le propriétaire de cette maison? Tu dis c'est moi le Rabb. C'est interdit. Rabb tout seul ne se dit qu'Allah Azzawajal. Mais tu dis je suis Rabb Ad-dar. Je suis le propriétaire de la maison. Je suis Rabb la voiture. Je suis le propriétaire de cette voiture. Je suis Rabb Sharika, telle société. Je suis le propriétaire, le patron de cette société. Et comme ça. Ou bien tu dis par exemple Rabbul Faras. Je suis le propriétaire du cheval. Ici, si tu ajoutes Rabb, tu lui as filé un autre complément, il devient, ce n'est plus le mais ça devient le propriétaire, le patron. Naam. Donc, si tu dis Rab tout seul, c'est le Seigneur. Mais si tu ajoutes un autre complément, ça devient quoi? Ça devient le propriétaire. C'est cette, c'est-à-dire faire de Rab le propriétaire en lui ajoutant un complément que l'on retrouve dans la parole du Très-Haut. Dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, quand Allah Azzawajal a dit, il a dit, Wadkurni, naam. Une seconde, il a dit ici le verset, il a dit, regardez ce verset, il a dit, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَجِي مِنْهُمَا اُذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ اُذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ Et il a dit, Youssouf alayhi salam a dit à celui des deux qui était avec lui en prison, dont il pensait qu'il serait délivré, il lui a dit, parle de moi auprès de ton maître. Parle de moi auprès de ton maître. Mais en arabe, bon, pas de problème. Maître, c'est seulement maître. Mais en arabe, ce n'est pas maître. C'est Rabb. Il lui a dit, Yani, parle de moi, naam, fais-moi rappeler, Yani, parle de mon gars qui? Inda Rabbik. Rabbik, c'est ton maître. En français, j'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est maître seulement. Mais en arabe, c'est Rabb. Rabb, normalement, c'est seigneur. Mais ici, on lui a ajouté un complément. On lui a dit, Inda Rabbika. Rabbika, Anta, toi. Donc, dans ce cas, c'est devenu Yani le maître. Le maître de Corné, Inda Rabbik. Et la même chose selon un avis, selon une interprétation du verset. Même cette signification est retrouvée dans la parole du Très-Haut. Lorsque Allah Azzawajal a dit, donc il a dit, قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن Joseph a dit retourne auprès de ton maître et de quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Quelle est la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Là aussi c'est la même chose, il lui a dit retourne auprès de ton maître. Maître, irji' ila rabbika. Rabbika. Celui qui connaît pas ce qu'on vient de dire, il va croire que rabbika ici c'est Allah, il parle du Seigneur. Va à ton Seigneur. Alors qu'il parlait du maître, il lui a dit, va à ton maître, auprès de ton maître, et demande-lui. Demande-lui quelle est la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Et la même chose, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, lorsque Youssouf a dit, lorsqu'il a commencé à interpréter les rêves, il a dit, l'un de vous, a du vin à mettre. En arabe, il a dit Fayisqi Rabbahu. Yisqi Rabbahu. Il va donner à boire du vin à qui? À qui? Rabbahu, c'est qui ici? C'est-à-dire son maître. Son maître. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il a ajouté un complément. Il n'a pas dit il va donner du vin au Rabb. Au Rabb. Si c'est au Rabb, ça veut dire au Seigneur. Mais il a dit Rabbahu. Il a ajouté le ha ici pour dire que c'est un complément. C'est pour cela que ça devient le mot, ça, le mot seigneur devient maître, devient le mot maître et propriétaire. Et le prophète, alayhi salam, a dit aussi dans un hadith authentique, il a dit, en parlant de la chose qui on la perd. On a par exemple, on va trouver quelque chose. Par exemple, maintenant en parlant des animaux, on marche dans la forêt ou bien dans le désert, on trouve par exemple Un mouton. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce mouton? On le prend chez soi et on prend une année. Une année, il ne revient pas. Le mouton nous appartient. Une année, naam. Et si, bien sûr, après une année, le mouton nous appartient, on fait ce qu'on veut, on peut le vendre, on peut l'égorger, on fait ce qu'on veut. Mais si jamais après quelques années, on ne sait jamais, 10, 20, 30, 40 ans, son propriétaire vient et nous demande le mouton, on doit le lui payer si on l'a égorgé ou bien on l'a vendu. Non. Et maintenant, on a parlé au prophète, on lui a demandé, et qu'en est-il par rapport au chameau? Il a répondu, il a dit, Malaka walaha, ma'aha siqa'uha, wa hida'uha, talidul ma, wa ta'jar, hatta yelqaha rabbuha. Hatta yelqaha rabbuha. Ce qui veut dire, il a dit, ne t'occupe pas d'eux, des chameaux. Ils transportent leur eau, dans leur bosse, là. Et ils ont leurs sabots pour traverser le désert. Ensuite, ils vont au point d'eau, ils connaissent les points d'eau et mangent des arbres jusqu'à ce que les retrouvent leurs propriétaires. Le chameau, on n'a pas le droit de le prendre et de le garder une année chez soi pour voir s'il le provient ou pas. Pourquoi? Il a dit car ils transportent leur eau avec eux. Il ne peut pas mourir de soif. Et il a le sabot. Aucun mal ne peut lui arriver à ses pieds. Ensuite, il connaît les endroits d'eau. Et ils mangent des arbres jusqu'à ce que les retrouvent leurs propriétaires. Qu'est-ce qu'il a dit ici en arabe? Bon, enfin, problème, il a dit propriétaire. Mais en arabe, qu'est-ce qu'il a dit? Yelqaha rabbuha. Jusqu'à ce que Yelqaha le retrouve. Rabbuha, rabbuha, rabb. Naam, rabbuha. Si quelqu'un connaît pas, il va dire jusqu'à ce que Allah Ta'ala va trouver le chameau, le rencontre. Non, rabbuha, rabbuha, c'est son propriétaire. Naam. Al-Muhim. Donc il apparaît clairement, après ce qui a été dit, que le terme est utilisé déterminé ou avec un complément pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Rabbul ou Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, ou encore Rabbul Nas, le Seigneur des hommes. Ce terme, par ailleurs, n'est utilisé pour désigner autre qu'Allah que suivi d'un complément. Comme on a dit, Rabbud Dar, le propriétaire, Rabb, le seigneur de la maison. Ça devient le propriétaire de la maison. Rabbul Menzil, naam. Rabbul Ibil, le propriétaire des chameaux. Le seigneur des mondes, Rabbul Alamin, signifie leur créateur et maître, leur arrangeur et éducateur par ses bienfaits. Messager et par la révélation de ses livres et celui qui va rétribuer les gens pour leurs actes. Pour leurs actes. Le savant Ibn al-Qayyim a dit, la seigneurie d'Allah implique le pouvoir d'injonction et d'interdiction sur l'humain ainsi que le pouvoir de rétribuer les bienfaisants parmi eux pour leur bienfaisance. Et les malfaisants, leurs malfaisants. Voir Madarij Salikin, tome 1, page 8. Ceci est la réalité de la seigneurie d'Allah Azzawajal. Je répète, la seigneurie Rububiya implique quoi? Le pouvoir d'injonction et d'interdiction sur les êtres humains. C'est ça Rububiya. Tu dois attester que Allah subhanahu wa ta'ala te donne des ordres et t'interdit des choses. Naam. Ainsi que le pouvoir de te rétribuer, bienfaisant, en bien, et de te rétribuer, naam, en mal, si tu es un malfaisant. C'est ça la réalité de la seigneurie, d'après Rahimahullah. Deuxièmement, naam, deuxièmement, on va voir quoi? L'acceptation du terme seigneur dans les conseils des communautés égarées. On va essayer d'afficher cela, inshallah ta'ala. Une seconde. Une seconde. L'acceptation du terme Seigneur Rab. Pas l'acceptation, l'acception. Du Seigneur Rab dans les conceptions des communautés égarées. Maintenant, on a vu c'est quoi le sens du terme seigneur et comment qu'il est employé dans les conceptions des musulmans. Maintenant, on va voir dans les conceptions des communautés égarées. Des communautés égarées. Allah Azzawajal a créé les hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est très important, c'est que Allah Subhanahu Azzawajal a créé les hommes, les êtres humains, prédisposés au monothéisme et à la connaissance du Seigneur. Je répète, très important. Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé les hommes, je veux dire les êtres humains, ils ont dans le la prédisposition au monothéisme, au tawhid, et à la connaissance du Seigneur. Comme a dit Allah Azzawajal dans le Coran. On va donner quelques preuves du Coran, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la marque qu'Allah a originellement donnée aux hommes, c'est-à-dire aux êtres humains. Pas de changement à la création d'Allah. Voici la religion de la droiture, mais la plupart ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas. Je relis. Allah a dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a donné par origine aux êtres humains. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, quand il a créé les êtres humains, il leur a donné une prédisposition qui se trouve dans leur cœur, originelle, à leur origine, qui quoi? Qui penche vers le fait de vouer religion exclusivement à Allah Azzawajal. C'est une aide, bien sûr, une grande aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne soit créée directement avec le penchant de quoi? Avec la disposition de cœur, la prédiction de vouloir adorer Allah wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans un autre verset qui montre aussi celui-là, il a dit, subhanahu wa ta'ala, regardez ce verset. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا قُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. نعم. C'est ce verset-là. Et quand ton Seigneur tira une descendance des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, il leur dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Allah Ta'ala a dit, afin que vous ne disiez pas, au jour de la résurrection, nous n'y avons pas fait attention. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a pris de nous, naam, quoi? Le pacte, naam. Il nous a posé la question. Il nous a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous on a répondu, si, nous témoignons que tu es notre. C'est pour ça que Yawm al-Qiyamah, aucune personne n'a d'excuse de dire, ya Allah, vraiment, je n'ai pas fait attention à ça et je ne savais pas, etc. Non. Affirmer la seigneurie d'Allah Azzawajal et se tourner vers lui sont des actes innés. Ça vient de soi-même. Alors que le polythéisme et le shirk, non, c'est un événement, ou alors ce sont des événements casuels. Casuel, c'est-à-dire qui à la base n'existaient pas, mais sont venus entacher le yani la prière et le monoïque, subhanallah al-adhim. Donc la base, quand une personne naît avec le polythéisme, avec le monothéisme, ensuite c'est le polythéisme qui vient l'entacher et la corrompre, ou bien c'est le contraire, ou bien la personne va naître à shirk, ensuite c'est l'islam et le monothéisme qui va venir. Qu'est-ce qu'on a la réponse, c'est quoi? C'est la première. Toute personne qui naît avec le monothéisme dans le cœur, la personne, le bé, prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, des fois, et dans beaucoup de cas, c'est le polythéisme qui vient gâcher tout cela. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré cela lorsqu'il a dit Kul yulad al-fitra. Tout nouveau-né naît avec la prédisposition naturelle à l'islam. Mais ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien, adorant feu. Bukhari 1385. Et musulman aussi. Tout nouveau-né, né, Allah Ta'ala le fait naître, le crée, avec dans son cœur et dans sa raison aussi, une prédisposition naturelle à accepter l'islam, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à être monothéiste. Donc d'abord, ses parents qui ou bien le rendent juif, ou bien le rendent chrétien, ou autre chose, bouddhiste, etc. Mais le prophète a cité ce qu'il y avait en son temps, ce qui était le plus connu. Il n'y avait pas de bouddhiste, par exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a cité ce qu'il y avait de plus connu. Non. Si l'être humain avait été laissé à sa prédisposition naturelle, il se serait sans aucun doute tourné vers le monothéisme et aurait accepté l'appel des messages contenus dans les livres sacrés, révélés et prouvés à travers les signes universels. Mais l'éducation dépravée et l'environnement athée sont les causes du changement de l'orientation du nouveau-né. Dès lors, les enfants imitent leurs parents dans l'égarement et la déviation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pas dans le Coran, dans un hadith authentique, il a dit, le hadith Qudsi, il a dit, خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. J'ai créé mes serviteurs exclusivement acquis à la religion d'Allah. Puis les diables les ont détournés. Donc ça confirme ce qu'a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala a créé les serviteurs exclusivement prêts, avec l'acquisition dans le cœur, à aller vers la religion d'Allah Azzawajal. Mais ce sont les diables qui les ont détournés. Si quelqu'un va dire, ici Allah Ta'ala a dit, ce sont les diables qui les détournent. Et dans le hadith a dit, ce sont les parents qui les détournent. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pas du tout. Les parents ne les détournent qu'en suivant les diables. Vous avez compris? Les diables, font le ouest-ouest aux parents qui, bien sûr, vont détourner leurs enfants. Donc les parents, quand ils détournent parce qu'ils ont aussi obéi au diable, au diable. Non. C'est-à-dire, ils ont été détournés vers l'adoration des idoles et vers leur considération en tant que divinité autre qu'Allah. Ils tombèrent dans l'égarement et la perdition. Ils tombèrent dans l'égarement et la perdition, la désunion et la divergence. Chacun adoptant pour lui un Dieu qu'il adore, un Dieu différent de l'autre. La raison en est que lorsqu'ils abandonnèrent le véritable Dieu, Allah, ils furent éprouvés par l'adoption de fausses divinités, comme a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a dit فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Naam. Allah Ta'ala a dit, tel est le vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, y a-t-il donc sinon l'égarement? Alors, quand vous vous détournez, tel est Allah Azza wa Jal, le vrai Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À part cela, la vraie vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? À part cela, il n'y a que l'égarement. La personne, ou bien l'adore Allah Ta'ala, le vrai Seigneur, ou bien toute autre chose, toute autre deité, c'est l'égarement et la perdition. Et la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, Regardez ce verset. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير الله الواحد القهار. Ensuite il a dit ما تعبدون إلا أسماء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أنزل الله بها من سلطان. الله تعالى دي Qui est le meilleur des seigneurs? Qui est le meilleur, afouan? Des seigneurs ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Ensuite, il a dit, vous n'adorez en dehors du nom que vous avez inventé, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah Azzawajal n'a fait descendre aucune preuve. Qui est le meilleur des, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés, naam, chacun sa statue, chacun son dieu, ou bien Allah Ta'ala l'unique, le dominateur suprême. En dehors d'Allah, que des noms que vous avez inventés, et des noms sur lesquels il n'y a aucune preuve que Allah Ta'ala a demandé qu'il fallait adorer avec lui ceux-là aussi, ceux-là aussi. Non. Le s'associer quelqu'un à Allah Azza wa Jalla dans la Seigneur affirmant créateur éthique dans leurs caractéristiques et leurs actes est inconcevable. Seulement certains polythéistes pensaient que leurs idoles possédaient certaines dispositions dans l'univers et le diable s'est joué d'eux en leur faisant adorer. Je répète, certains mouchriquins pensaient que leurs idoles possédaient certaines dispositions dans l'univers pouvaient régir en quelque sorte quelque chose dans l'univers. Et le diable s'y joue en leur faisant adorer ses idoles. Si on prenait par exemple l'exemple de Al-Khomeini, le shaitan, l'ennemi d'Allah Azzawajal, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudire jour et nuit. Qu'est-ce qu'il a dit dans un de ses livres par exemple? Il a un Al-Hukuma, Kumel islamique, ou quelque chose comme ça. Si j'ai une bonne mémoire, si j'ai lu ce livre, si j'ai une bonne mémoire, ce que je dis, page 12, mais je ne suis pas très sûr, mais il se trouve dans le livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le maudit, il a dit dans ce livre que nos imams, parce que lui c'est un imam, et il y a un imam à lui, il a dit nos imams ont la possibilité de régir, naam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit que nos imams, naam, lahum tasarruf, tasarruf fil kawn. Il n'a pas expliqué ce qu'ils peuvent dire exactement, mais ils ont la possibilité de régir, comme de faire tomber la pluie, de faire par le appel d'éclipse solaire, d'arrêter le soleil s'ils veulent, il va s'arrêter, de faire tomber la neige, d'envoyer des tremblements de terre. Il a dit certains de nos ils ont cette quoi? Ils ont cette possibilité là. Il a dit le maudit il a dit aussi, c'est pourquoi oui. Aucun ange rapproché d'Allah, ni messager qu'Allah Ta'ala a envoyé, ne peuvent atteindre le niveau de nos imams. Le niveau de les kuffars, les souillés, les maudits. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté, c'est pas lui qui a dit ça, bien sûr. Mais il a dit, aucun des qu'Allah Ta'ala a envoyé, ni les anges rapprochés ne peuvent atteindre. Alors que tout le monde sait que leurs imams ce sont des souillés qui ne font même pas la prière, qui ne font ni ablution ni rien, et qui sont des mouchriquins et ne connaissent rien dans le din. Je vous ai toujours dit, je redis, les rawafid sont des perses, vous savez, sont des perses. La perse, les perses ils sont connus par quoi? qui sont connus d'être des Mazdéens, des adorateurs du feu. Jamais ils n'ont été musulmans. Mais ils se sont cachés derrière l'islam à cause de quelqu'un juif qui s'appelle Ibn Saba. C'est lui qui leur a dit, viens, on va montrer que nous, par exemple, on aime beaucoup les gens de la maison du prophète islam, Al-Bayt et comme ça. Et ils ont dit, nous, on est mieux que tout le monde. Nous venons de. Nous sommes la descendance du prophète islam, ensuite de Fatima et comme ça. Alors qu'en vérité, l'islam est dans les cieux et eux, ils sont, yani, au tréfonds de la terre. L'islam se trouve à l'est et eux, ils sont à l'ouest. Ils ne connaissent rien de l'islam, ils n'ont aucune relation avec l'islam. El-Mouhim, je disais. Alors le diable s'est joué d'eux, il s'est joué de chaque peuple à la mesure de leur raison. C'est pour ça qu'il incite à un groupe de gens à les adorer en vénération. Naam, en vénération pour les morts, à l'image desquels les idoles étaient sculptées, comme c'était le cas du peuple de Nuh alayhi salam. Un autre groupe de gens adoptèrent des statues représentant les astres qui avaient selon eux, une influence sur le monde. Pour cette raison, ils leur attribuèrent des demeures et des gardiens. De plus, Cheikh Fawzandi rahimahullah, ils divergèrent dans l'adoration de ces astres. Certains adorèrent le soleil, d'autres la lune, et d'autres encore les astres de la lune, jusqu'à leur construire des sanctuaires, à chaque astre un sanctuaire respectif. D'autres encore, les Mazdéens, adorèrent le feu, et d'autres les vaches, comme les hindous, mais aussi les anges, les arbres et les pierres. Il y en a aussi qui adorent les tombes et les tombeaux. Tout ceci parce que ces gens se sont imaginés que ces choses possédaient quelques-unes des particularités de la seigneurie, comme a cru Khomeini, comme a cru Khomeini. Il y a cependant, non, il y en a qui prétendent que ces idoles représentent quelque chose d'absent. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, à l'origine, on plaçait une statue à l'image d'un être adoré. On modelait donc la statue sous sa forme, son apparence et son image pour qu'elle prenne sa place et joue son rôle. Autrement, il est clair qu'un être doué de raison ne sculpte pas du bois ou de la pierre de ses propres mains, puis pense que c'est son Dieu et l'adore. Voir Hiratet, tome 2, page 220. De même, les adorateurs des tombes, jadis et aujourd'hui, prétendent que ces morts intercèdent en leur faveur et interviennent auprès d'Allah Azzawajal dans la satisfaction de leurs besoins. Ils disent, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Ma na'buduhum illa liyubuna ila Allahi zulfa. En fait, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'avant. Regardez. Vous avez remarqué avec moi, les koufars, hein, au temps du prophète, et tu dis à Abu Jahl ou bien X, tu lui dis, pourquoi tu? La statue, c'est pas Allah. Du coup, oui, je sais ça. Cette statue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me rapproche d'Allah. C'est pas elle, Allah. Je sais que c'est pas elle, Allah. Mais elle me rapproche. Moi, je suis souillé. Je fais beaucoup de péchés, etc. Alors cette statue, elle intercède. Je fais de sorte qu'elle soit une intercession, un point, un tridir, comment ça s'appelle, un tiré, nam, un tiré, non, entre elles, nam. Donc c'est juste une intercession. C'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça te dit le kafir, le mushrik. Et nous, l'islam nous a appris que mes serviteurs, je suis proche, il n'y a pas d'intercession. Quelqu'un qui nous est Allah subhanahu wa ta'ala, comme chez les chrétiens. Chez les chrétiens, tu ne peux pas demander à Allah ta'ala de te pardonner. Il faut que tu ailles chez le prêtre et le curé et que ce soit lui qui demande à Allah ta'ala za'ma de te pardonner. Chez nous, alhamdoulilah, tu lèves tes mains et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Ou bien, ou bien tu raka'at, tu demandes le pardon. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Dans le Coran, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون شفعاؤنا عند الله. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur profiter. Et ils disent sont nos intercesseurs près d'Allah. Ce sont seulement des intercesseurs. Allah Ta'ala, mes intercesseurs. C'est comme les soufis qui vont yani, demander au défunt qui est mort. Ils vont au tombeau et ils disent yani, que c'est mon intercesseur. Il dit je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans au-dessus des cieux, mais celui-là, ce mort, c'est un saint. Il était masha'Allah, etc. Donc c'est une intercession. Il me fait l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit d'autre part. Certains polythéistes parmi les Arabes et les chrétiens s'imaginaient que leurs os étaient la progéniture d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes arabes adorent en tant que filles d'Allah subhanahu wa ta'ala et adorèrent le en fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, inshallah ta'ala, on va voir la réfutation de ces conceptions fausses. La réfutation de ces conceptions fausses. Avant cela, il faudrait savoir quelles sont les conceptions fausses. Naam, ce sont trois sortes de conceptions. On va voir maintenant naam, la réfutation des conceptions. On va voir quelles sont les trois sortes. Et ensuite, on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutées. Les trois sortes de conceptions fausses sont la première. Ceux qui adorent les statues. La deuxième, ceux qui adorent les astres, le soleil, la lune, etc. La troisième, ceux qui adorent les anges et le Messie. Je répète, les conceptions fausses citées jusqu'à présent dans ce livre, ce sont la conception de ceux qui adorent les statues, comme les Arabes autrefois, et la conception de ceux qui adoraient les astres, et la conception de ceux qui adorent les anges et le Messie. Comme les chrétiens. On va commencer maintenant par l'adoration des adorateurs de la statue. Des statues. Donc on commence par le petit a, Inch'Allah Ta'ala. Réfutation des adorateurs de statues. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Afara'aytumu al-lata wal-'uzza. ومنات الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى منات طيب سيسويلا أفرأيتم اللات والعزى وما que vous divinité de اللات et العزى cette troisième autre. Les polythéistes arabes adoraient Lat, une divinité qui s'appelle Lat, une divinité qui s'appelle Uzza, et une troisième qui s'appelle Manat. Naam. Lat, Zama d'après eux, c'est le féminin de Allah. Et l'Uzza, féminin de l'Aziz. Allah Ta'ala, c'est lui l'Aziz. Féminin, ça donne et Manat, une troisième, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Allah ta'ala leur a dit que vous ensemble, c'est un point d'interrogation, c'est une question, il leur a dit que vous ensemble, Manat et l'Uzza, ainsi que Manat. Le sens de ces versets, d'après l'imam al-Qurtubi, c'est avez-vous vu, vous voyez ces divinités, ont-elles apporté un quelconque bien ou bien un quelconque mal pour être des associés à Allah subhanahu wa ta'ala? Qurtubi rahimahullah dit toujours, il dit, se sont-elles défendues, c'était ces trois, se sont-elles défendues le fait d'Allah azza wa jal, Ibrahim bien sûr, et ses compagnons les démolir, hein? Vous dites que ce sont des Est-ce qu'elles vous ont apporté du bien? Alors, ont-elles pu repousser le mal? Exemple, Ibrahim, les démons, comme c'est dans le que je vis ici. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لي أبي قالوا نعبد عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون الله تعالى دي ريسيت لور لا نوفيل d'Ibrahim quand il vient son peuple. Qu'adorez-vous? Idole, et nous le restons attachés. Alors Ibrahim a dit, vous entendent-elles? S'ils entendent lorsque vous les appelez, ou bien vous profitent, est-ce qu'elles vous profitent en quelque chose? Ou bien vous nuisent-elles? Alors ils n'ont pas trouvé de réponse. Ils ont dit, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agir ainsi, donc nous faisons ce qu'ont fait nos ancêtres. Mais lorsqu'il a posé la question, est-ce que ces idoles vous entendent lorsque vous parlez, lorsque vous les appelez? Non. Ou bien, quelque chose, elles vous donnent du bien? Ou bien, elles vous nuisent? Trouvez de réponse, bien sûr. Ils ont dit seulement ainsi, on les a suivis. On les a suivis. Ils ont donc admis que ces statues n'entendent et n'apportent ni bien, donc, que par imitation aveugle de leur père et imitation aveugle, l'imitation argument vain est un argument vain. Donc ça, c'est la réfutation pour les abattus. Alors, la réfutation des adorateurs des astres. Des adorateurs des astres. Dit dans le Coran. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Il a dit, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. Et la lune et les étoiles. Et à son commandement. Donc, si quelqu'un veut adorer, normalement il adore le commandeur. Celui qui a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et non pas il va adorer le soleil, la lune et les étoiles elles-mêmes. Tu laisses le créateur, tu vas adorer une chose qui a été créée, qui l'a dit aussi. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas, ne vous prosternez ni au soleil ni à la lune, mais plutôt prosternez-vous à Allah si c'est lui que vous adorez. Naam. Vous dites donc, vous prosternez au soleil et à la lune. Si vraiment vous adorez, vous devez vous prosterner. Créateur, c'est lui qui les a créés. Donc, ça, c'est une loi aux adorateurs des astres, aux adorateurs des statues. Donc, qu'est-ce qu'il reste? La réfutation des acteurs des anges du monde. Allez, réfutation des adorateurs du Messie. Et bon, on va terminer, inshallah ta'ala. Il reste seulement deux ou trois versets, inshallah ta'ala. Je disais, réfutation des adorateurs des anges et du Messie. Des anges et du Messie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, نعم ما اتخذ الله من ولد Allah ne s'est point attribué d'enfant. Mattakhadallahu min walad. Allah ne s'est point attribué d'enfant. C'est pour ceux yani, qui adoraient les anges. Ils disaient que Allah subhanahu wa ta'ala avait pris les anges comme yani, enfants. Naam. Et il a dit aussi, أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. J'ai oublié le début. أن. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Et il a dit aussi, non, il a dit aussi, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Non. Donc ça, c'est pour réfuter ceux qui ont dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala avait un enfant. Que Allah subhanahu wa ta'ala avait un enfant. Donc en cela, vous voyez que Allah ta'ala a donné la réfutation aux adorateurs des statues, ensuite aux adorateurs des astres, et enfin aux adorateurs des anges et du Messie. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne, inshallah ta'ala, un quart d'heure pour que vous me prépariez les questions. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc la première question, chère question d'un frère qui dit, Cheikhana, qu'Allah allonge votre vie dans les actes pieux. Dans le hadith, tout nouveau-né naît avec la prédisposition naturelle à l'islam. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou mazdéen. Un hadith rapporté par Al-Bukhari, 1385. Doit-on alors considérer les enfants des kuffars comme nos frères, les aimer en Allah et agir avec eux comme avec un musulman? Et pouvez-vous nous conseiller un livre réfutant les sectes comme les Rawafid et leurs fausses croyances? Barakallahu fikoum, cher.
Qu'est-ce qu'il a dit sur le livre? Le livre. La deuxième partie de la question sur le livre.
Il demande si vous connaissez des livres qui réfutent les sectes, notamment les Shia Rawafid.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En ce qui concerne les enfants des kofars, ou des juifs, ou des bouddhistes, hein, vous savez que l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, tout ce qu'il fait ou ce qu'il dit, hein, ne s'écrit pas contre lui quand c'est du mal. Et si maintenant il fait quelque chose de bien, etc., ça s'écrit pour lui. Mais s'il fait quelque chose de contraire à la religion, ou bien kofr, ou bien quelque chose comme ça ne s'écrit pas contre lui tant qu'il n'est pas pubère. Mais les savants disent que les enfants, hein, suivent les parents. Les enfants suivent leurs parents dans le hukm. Dans le hukm, d'après les pays où ils vivent. Les enfants des kofars font partie des kofars quand ils sont chez les kofars, dans la société des kofars. Les enfants suivent les parents, mais quand ils deviennent pubères, maintenant, ils vont choisir le chemin, on va dire, de, voilà, ce sont des kofars ou des musulmans, c'est-à-dire que s'ils meurent maintenant, après la puberté, c'est ou bien le paradis, ou bien l'enfer. Mais quand ils sont jeunes comme ça, avant la puberté, hein, on ne peut pas dire d'eux que, par exemple, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. D'ailleurs, vous savez, il y a 11 ou 12 avis, ou même 18. 18 avis à peu près sur l'enfant kafir qui meurt avant la puberté. Et vous savez qu'on l'a dit plusieurs fois, on a choisi l'avis de Cheikh Al-Albani Rahmoullah, d'après le hadith authentique, que les enfants des mouchriquins sont yani, les servants, ou là, les serviteurs, ou là, les valets, yani, des gens du paradis, comme ça a dit le prophète. Quant au livre, il y a beaucoup de livres sur les Rawafid. Je ne connais pas de livres en français, mais en arabe, il y en a tellement que c'est impossible de les citer ici. Parmi les plus réputés, c'est le livre de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Minhaj Sunnah. En 5 tomes ou 7 tomes, ça dépend de l'édition, spécialement pour réfuter les Rawafid et ce qu'ils ont dit. Sinon, il y a beaucoup de livres de contemporains. Hein. Et puis, il y a un livre qui s'appelle, l'auteur s'appelle Islam Ihsan. Attends, comment s'appelle Ihsan Zahir. Ihsan Zahir. Non, qui était lui-même Rafidi. Qui était lui-même Rafidi. Ensuite, il a fait la Touba et il a commencé à réfuter ce que disent les Rawafid et à les dévoiler. Et il est mort assassiné. Naam, Ihsan Ilahi Zahir. Et il est mort, subhanallah, assassiné par les chiites. Le Mouhim, sinon, la plupart des savants contemporains, des grands, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Fawzan, la plupart ont écrit des choses dans leurs livres sur les Shia et les Rawafid, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question suivante d'une sœur qui demande: selon le hadith que vous avez cité, celui qui naît avec la fitra du monothéisme, donc le hadith cité par le frère précédemment aussi, mais n'a connu aucune religion au cours de son existence, lors de sa mort sera-t-il soumis à un traitement spécial dans la tombe et quel est son jugement en islam, musulman, mécréant, etc. Barakallahu fikoum cher.
La personne, bi'idhnillahi ta'ala, dès qu'elle atteint, est-ce que vous m'entendez, dès qu'elle atteint la puberté, il lui est obligatoire de chercher, de faire des recherches pour savoir quelle est la religion qu'elle doit suivre. Pour savoir quelle est la religion qu'elle doit suivre et comment arriver à connaître le vrai Seigneur et l'adorer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que personne de cette nation, qu'il soit juif ou chrétien, qui entendrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne le suivrait pas, que il serait demain en enfer. Que quand il meurt, il sera demain en enfer. C'est-à-dire que dès que la personne devient pubère, il lui devient obligatoire de chercher quelle est la religion, la vraie, pour adorer le vrai Seigneur. Si toutefois une personne a vécu, par exemple, a perdu la raison après la puberté, ou bien a vécu dans un endroit où il n'y avait pas, on ne pouvait pas entendre un âme sur les religions, comme une personne, par exemple, qui a vécu isolée en Amazon, par exemple, vraiment avec les cannibales, etc. Cette personne, d'après le hadith authentique, qu'elle sera testée yom al-qiyamah. C'est pour ça que le prophète Islam a dit, 4 personnes seront testées yom al-qiyamah. Et entre autres, il a cité la personne qui vivra isolée, isolée, loin du monde et des gens. Sinon, une personne qui a vécu au milieu des gens, qui a entendu parler du prophète Islam et qui n'a pas voulu le suivre, ou n'a pas voulu chercher pour comprendre, cette personne ne sera pas excusée yom al-qiyamah d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Une personne dit croire en Allah, mais elle n'admet pas que le Coran nous enseigne l'islam. Et de ce fait, elle vit sa vie. Que lui répond, cher? Donc, une personne qui dit qu'elle croit en Allah, mais elle n'admet pas que le Coran nous enseigne l'islam.
Sa croyance en l'islam ne lui sert à rien. Et, premièrement. Deuxièmement, elle n'est pas croyante. C'est cette personne qui s'est donné le statut de croyante. Elle a dit je crois en Allah ou bien je crois en l'islam. Mais en fait, elle n'y croit pas. Car croire en l'islam, c'est d'abord croire au Coran. Et que c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qu'on doit faire se trouve dans le Coran et que tout ce qu'on doit éviter se trouve aussi dans le Coran et bien sûr la Sunna. Donc dire je crois en Allah Ta'ala et je ne crois pas au Coran, que ce soit le livre qu'il faut suivre, c'est se contredire. C'est se contredire. c'est dire je suis croyant sans croire en l'islam. C'est à peu près comme ça. Donc une personne qui dit comme ça est une personne, naam, par rapport à la charia, par rapport à l'islam, elle n'est pas musulmane. Naam. C'est un zindir, comme on dit, zindir. Naam. Donc ça lui sert à rien de dire je crois en Allah parce que en vérité, si cette personne meurt, elle sera dans l'enfer éternellement. Oulayadu billah. Allah.
Donc la question de la sœur était, avant de citer le point numéro 2 du cours, vous avez dit quelque chose comme c'est Allah qui punit si on fait des choses interdites. Pourriez-vous, barakallahu fikoum, rappeler ce point-là, car je n'ai pas bien compris. Et également, je tenais à vous dire, barakallahu fikoum, pour tous les cours que vous nous donnez, et en particulier celui de mercredi dernier sur Tawhid al-Rububiyya. Est-ce que vous allez faire la suite, Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Asma wa Sifat? Barakallahu fikoum, cher.
Non, c'est bien dans mes intentions de faire le tawhid divinité, l'uluhiyya et ce qu'on appelle aussi l'ilahiyya et l'ibada, aussi celui des noms et des attributs. Sinon, ça veut dire qu'on ne va pas finir le livre. Vous avez compris. On a commencé par tawhid rububiyya, on va passer par la suite, inshallah ta'ala, l'uluhiyya, suite, les noms et les attributs par détail, inshallah ta'ala. Donc je reviens jeudi. Quand j'ai punissé, que yani, quand on va mourir par exemple, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, ceux qui ont fait des fautes, yani, s'il ne leur pardonne pas, c'est lui qui va les faire rentrer en enfer et qui va les punir par le feu s'il ne leur pardonne pas. Et avant cela, il punit aussi dans la tombe. Dans la tombe, il punit hein, beaucoup dans le hadith authentique que Nabi Aslam a vu. Yani, et il passait devant une tombe, il a dit dans ces deux tombes ici, il y a deux personnes, musulmanes bien sûr, qui sont en train d'être châtiées. L'un à cause que quand il urinait, il ne se nettoyait pas, ne se lavait pas, ou bien ne se nettoyait pas, et l'autre à cause d'eux, il faisait la médisance. Donc c'est Allah Ta'ala qui les a punis. Pourquoi on dit que reconnaître que c'est Allah qui punit, ça rentre dans le tawhid de la seigneurie, parce qu'il y a des rawafid. Et bien sûr, des kofars aussi, qui disent que Yom Kiyam Abi Talib qui punit. Et qui dit, toi tu vas au paradis et toi tu vas en enfer. Et nous on dit, celui qui dit comme ça, ne peut être qu'un kafir. A'oudou billah. A'oudou billah. Naam, tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Une sœur demande par rapport à une parole précédente, cher. Celui qui est chrétien et croit au Coran et au prophète Mohammed aïssat wa salam, comment doit-on le considérer? Barakallahu fikoum, cher.
De toute façon, je ne sais pas ici qu'est-ce que ça veut dire être chrétien et croire en Allah et au prophète. C'est très vague. Que ça veut dire par chrétien que je dis que Isa, Jésus, c'est le fils d'Allah. Ou bien croire en Allah et au prophète, ça veut dire que je suis toujours kafir. Je suis toujours mécréant. Non, et je ne suis pas encore musulman. Mais si maintenant je suis chrétien, ça veut dire que yani, de naissance, on m'a baptisé, etc. Et quand j'étais jeune enfant, on m'a pris à l'église, etc. Mais maintenant, je crois au Coran. Le livre qu'on doit, c'est le livre qui contient l'absolu. Je crois à Mohammed que ces derniers des prophètes, le sceau des prophètes, existe maintenant. C'est que la personne n'est plus chrétienne, elle est musulmane. Non, donc. Pour voir qu'est-ce qu'on veut dire par être chrétien et croire au Coran. Tfadlal. Si par contre, j'ai oublié une chose, si par contre, la personne est chrétienne, elle va à l'église, etc., et dit, comme j'ai dit, Jésus c'est le Fils, c'est lui là, ensuite dit que je crois au Coran. C'est-à-dire que je crois et j'atteste que le Coran a été envoyé aux Arabes, pas à nous les chrétiens. Et je crois que Mohammed, c'est aussi. J'atteste que Mohammed, c'est le messager des Arabes, pas le nôtre. Dans ce cas, la personne est toujours chrétienne et ça ne lui sert à rien de croire en ces choses. Si elle meurt, l'âme, c'est l'enfer éternel. Tfadla.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, question suivante, question d'une sœur. Cher, qu'Allah Ta'ala vous fasse miséricorde et vous accorde le paradis à vous et aux admins. Amin. J'aimerais savoir, lorsqu'un couple se marie, que l'un des deux ne faisait pas salat et s'est mis dans le minhaj salafi. Après, doivent-ils se remarier? Barakallahu fikoum, qu'Allah augmente votre science.
Je ne pense pas, Allah Ta'ala, qu'ils doivent refaire l'acte de mariage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait le mariage des kuffars, qui était kuffar, vraiment kuffar, et en est au point propre du mot. Et lorsqu'il rentrait en islam et commençait à pratiquer, etc., jamais il n'a demandé à quelqu'un, il lui a dit, va refaire l'acte de mariage, ou bien, par exemple, tes enfants ne sont pas tes enfants. Non. Donc la personne, si on a tauba, a commencé à prier, etc. Non. Qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, suffise à cela, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal.
Donc, question suivante, et ensuite je t'ouvrirai le PV, Inch'Allah Taufik. Question d'une sœur. Ahsanallahu alaykum, cher. Il y a un hadith connu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Celui qui m'a vu en rêve m'a bel et bien vu, car le diable ne prend pas mon apparence. Cher, il y a quelques jours, j'ai rêvé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne l'ai pas vu, car il était de dos. Par contre, je l'ai entendu. Il a dit Assalamu alaikum deux fois. Subhanallah, c'était une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Ni trop grave, ni trop aiguë. Une voix, masha'Allah. Alors ma question est, est-ce que le fait d'entendre la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en rêve, entre dans le cadre de ce hadith? Barakallahu fikoum. Fadashir.
Al-Muhim, sallallahu alayhi wa sallam, pour le voir, yani, on peut le voir de loin, profil, le voir de haut, voilà, de dos. Al-Muhim, celui qui le voit de face est mieux que celui qui le voit de dos, par exemple. Naam. Comme celui qui le voit de près, c'est mieux pour lui que celui qui le voit de loin. Et celui qui l'a vu de dos et l'a entendu, c'est déjà si vraiment c'est lui, alayhi salatu salam. Donc si c'est vraiment c'est lui que la personne a vu dans le songe, cela veut dire, inshallah ta'ala, que c'est une bonne nouvelle. Comme quoi cette nouvelle que la personne, inshallah ta'ala, mourra sur le tawhid et bien sûr verra donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et sera des gens du paradis, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Donc le frère Abu Turab qui a demandé à Toufik que je vienne en PV, son PV est fermé. Donc je ne peux pas le contacter. Question suivante d'une sœur, Allahu A'lam. Ahsanallahu ilaykoum, cher. Je suis convoqué au tribunal d'ici 2 mois, Inch'Allah, pour la garde de ma fille. La procédure a été entamée par son géniteur. Comme vous connaissez la situation en France concernant le djilbab, il est interdit par la loi de couvrir la tête au tribunal. Dois-je essayer de ruser en essayant de couvrir mes cheveux et porter des vêtements très amples ou me présenter avec le djilbab quand même? Cette présentation au tribunal décidera de la garde de ma fille. De plus, nous avons le projet, mon mari et moi, de partir avec elle si Allah Azzawajal me facilite. Si la garde ne m'est pas accordée, je ferai quand même la hijra avec mon époux et mes enfants, Inch'Allah, en espérant qu'un jour elle me revienne. Conseillez-moi, cher, barakallahu fikoum.
Muslim, Si c'est possible, inchallah ta'ala, de s'éloigner un peu du micro. Pour moi, j'entends, c'est très fort, au point où des fois je n'arrive pas à comprendre. Et premièrement. Deuxièmement, inchallah ta'ala, qu'est-ce que tu as compris de la question? Qu'est-ce que tu as. J'ai pas bien compris la question, tfadlal.
Donc, ce que j'ai compris par rapport à la question, c'est que la sœur, donc elle porte le djilbab, et en France, donc ça je ne savais pas, apparemment nous n'avons pas le droit de se présenter au tribunal en portant le djilbab. Et elle pense que si elle se présente avec le djilbab, ça va en fait inciter le juge, etc., à lui enlever la garde de l'enfant et favoriser la garde de son ex-mari. Wallahu alam, c'est ce que j'ai compris. Et donc elle vous demande conseil sur le fait de savoir comment se présenter le jour du jugement. Est-ce qu'elle doit tout de même venir en djilbab, malgré l'interdiction, ou alors essayer de porter des vêtements amples et se cacher donc les cheveux pour essayer donc de ruser et que ça plaît dans sa faveur. Wallahu alam, c'est ce que j'ai compris. Toi, Dachir. Alors, Ibn Mohamed dit, une sœur dit qu'il est possible d'aller au tribunal en djilbab et qu'elle-même s'y est rendue en djilbab. Là, moi, je n'avais jamais entendu le fait que nous ne puissions pas. Allahu a'lam. Tfadal, cher.
Non, peut-être que la sœur, inshallah, ta'ala, confondre et cita. En France, il n'y a aucune loi qui interdise de yani, d'être avec le djilbab dans la rue ou dans la poste ou n'importe où. Ce qui est interdit, c'est d'être avec le sitar. Le sitar qui cache le visage. Voilà ce que veut dire ce sitar. Quant au djilbab, c'est l'habit que vous connaissez, que la femme met sur sa tête et qui descend jusqu'à ses pieds. Je ne pense pas que cette chose soit interdite en France, surtout que ça vient d'être étayé par ce que vient de dire une sœur ici. Elle vient de dire que moi-même, personnellement, j'ai été en djilbab au tribunal et que Yanni a fait le reproche. Non. Donc je conseille à cette sœur que qu'on la lui donne ou pas, tout dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même si on lui enlève la garde, l'essentiel, elle a fait ce que Allah ta'ala lui a demandé de faire. Naam. Et ensuite, que si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui rendre à la fille, il lui donnera, même si la garde, c'est un bien. Et que plus tard, il lui comme Allah subhanahu wa ta'ala a rendu Moussa alayhi salam à sa mère, qui l'a jeté à la mer. Malgré cela, Allah Ta'ala a dit, Inna radduhu ilayk. On va te le rendre. Non seulement te le rendre, mais waja'iluhu min mursalin. Mais encore faire de lui un messager. Et parmi l'un des saints messagers, parmi les messagers, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlal.
Donc, question suivante, question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykoum, cher. Ma question est la suivante. Je souhaiterais étudier dans un pays musulman, en Égypte, à Alexandrie. Pour la langue arabe, m'est-il permis d'être seul dans ce pays, en sachant que je serai accompagné de mon mahram durant le voyage, et une fois m'être installé, mon mahram me laissera seul dans ce pays. Et il reviendra me chercher une fois la session qui durera environ un an. Il faudra que je fasse des renouvellements de visa au consulat environ tous les 3 mois. Le consulat ne se trouve pas très loin, à environ 40 minutes en minibus et 25 minutes en taxi. Toi, Dachir.
Il y a trois choses que je dis ici, Inch'Allah ta'ala, très vite. La première, c'est que le mahram est demandé pour le voir, pas pour le fait quand on est dans une ville. Vous avez compris? Le mahram, c'est demandé pour nous accompagner pendant le voyage, pendant l'aller, pendant le retour. Maintenant, quand on est là-bas, on n'a plus besoin de mahram. C'est un peu comme une femme qui vit seule dans son pays. Est-ce que toi, par exemple, si tu es une sœur et tu vis seule dans ton pays, tu n'as pas de parents, ils sont tous morts. Est-ce que donc il te faut un mahram? Non, il te faut un mahram pour voyager. Deuxièmement, quand elle dit qu'il faut pour le bus, je ne sais pas, toujours dans la ville, même si la ville est très grande et très vaste, et qu'il me faut 1 heure ou 2 heures pour la traverser, je n'ai pas besoin de mahram. Tant que je suis toujours dans la ville. On va prendre par exemple Paris. Si Paris est vraiment du sud au nord, ou bien de l'est à l'ouest, il me faut 3 heures, je n'ai pas besoin de mahram, même si c'est 200 km. L'essentiel, je suis toujours à Paris, ou bien je suis toujours dans la banlieue de Paris, c'est-à-dire les petits villages ou les petites villes qui sont collées l'une à l'autre à Paris. Et troisièmement, ce que je voulais dire, c'est que la personne devrait bien demander comment sont les choses là-bas. D'après moi, l'Égypte, ce n'est pas facile en ces temps-là où il y a la fitna des frères musulmans et ce qui se passe avec l'armée. Donc il faudrait vraiment être sûr que en allant là-bas, on ne risque pas de se trouver en prison ou bien il puisse Ta'ala nous préserver ou bien assassiner ou bien tuer ou bien je ne sais pas quoi. Donc il faudrait être sûr que là-bas, que vraiment il n'y a pas de problème. Pour demander avec les gens qui sont là-bas, bi'idhnillahi Ta'ala. Tafadhal.
Question suivante, question d'un frère. Un groupe de sœurs loue une piscine raison pour les sœurs. Est-il permis qu'elles se baignent avec les burkinis, maillot de bain qui couvre de la tête aux pieds, une sorte de survêtement? Et est-il possible de vendre ce burkini? Je joins un lien, Inch'Allah, pour la photo. Barakallahu fikoum. Donc, cher, si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous envoie le lien, Inch'Allah. Ah, je vous l'ai envoyé. Je vous l'ai envoyé, cher. Très bien, Inch'Allah.
C'est quelque chose vraiment de collant, quelque chose de collant au corps de la femme et qui montre bien d'une façon claire, il montre la poitrine de la femme, il montre son buste, il montre bien ses jambes, ses cuisses, il montre bien yani la forme. C'est pour cela que ça c'est avant d'être mouillé. Quand ça sera mouillé, ça sera pire. Quand ça sera mouillé, ça sera pire et le derrière, c'est pour cela que je recommande plutôt, si c'est possible, si c'est puisque quand on loue, je crois, Allah Ta'ala, vous me corrigez si je me trompe, je crois que quand on loue une piscine, je crois qu'on est libre de s'habiller comme on veut, je pense, hein? Parce que maintenant la piscine on l'a louée, donc c'est seulement pour nous, donc on fait ce qu'on veut, Allah, corrigez-moi si je me trompe, si c'est ainsi, donc il vaut mieux nager en hijab, c'est-à-dire on met on met sur la tête le foulard et on met un hijab qui est large, un hijab, c'est pas spécialement un jilbab, mais un hijab. Un hijab c'est quelque chose qui ce qu'on appelle un abaya. Vous connaissez ce que c'est un abaya? Ça se met sur l'épaule et ça descend. Contrairement au jilbab qui se met sur la tête. Donc on met un abaya assez large et on nage avec, là, car ça ne moule pas, ça ne moule pas. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal. Ensuite, j'ai oublié une chose. Ensuite, si c'est seulement avec les femmes, si c'est femme, là, femme avec femme et on est toutes des sœurs, ce n'est pas obligé de mettre quelque chose sur la tête. La tête, les cheveux, c'est pas une awra pour la femme. Femme avec femme. Donc, si on est entre femmes, c'est pas la peine de se couvrir les cheveux. Si on est toutes des femmes, yani, je veux dire des musulmanes. Tfadhal.
Ibn Mohamed, تفضل Inch'Allah.
Barakallahu fik, akhi muslim. Donc, je pose la question d'une sœur. On revient aux questions sur le cours, cher. Tout d'abord, une remarque de la sœur qui dit: Cher, je suis converti, alhamdoulillah, et je porte le sitar. Mais en France, ça devient de plus en plus compliqué entre les insultes des koufars, l'injustice des policiers. Et surtout, j'ai peur pour mes enfants, car certains n'hésitent pas à s'en prendre aux enfants, les poussant ou autres. Je suis d'avis que le sitar est obligatoire et peur de prendre des péchés, car je l'enlève souvent ces derniers temps. Inch'Allah, ce sont des épreuves qu'Allah nous aide, et ce sont des épreuves qu'Allah nous aide dans la compréhension de notre dîn et nous. Et la remarque, comme vous avez dit, cher pour les convertis. Et pour la question, donc vous avez parlé de Isa, alayhi salam, et je ne comprends pas le fait qu'à travers le fait que les kuffars attribuent à Allah un fils, donc Isa, cela veut dire qu'ils l'adorent. Donc ils adorent Isa alayhi salam, car le fait qu'ils disent que Isa est le fils d'Allah ne veut pas forcément dire qu'ils l'adorent. Wallahu alam. Donc comment expliquer cette chose aux kuffars lorsqu'on fait da'wah? Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, Cheikh.
À fond, mais c'est pas clair du tout. Non, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Et même au début, il y avait beaucoup de coupures. J'ai pas beaucoup entendu qu'elle etc. Masha'Allah pour elle. Ou alhamdoulilah que Dieu azzawajal l'a sauvée et qu'elle soit devenue musulmane. Pour et ce qu'elle a dit sur Jésus. Tfadlal.
Donc au début, Shira disait que qu'en tant que convertie, elle est d'avis que le sitar est obligatoire, mais elle rencontre des problèmes et qu'elle est amenée à l'emmener. Donc en espérant qu'elle n'a pas de péché auprès d'Allah, car elle enlève par la crainte de ce qui peut arriver surtout à ses enfants. Et donc, Shira, pour la question, elle demande pourquoi le fait voilà, de dire que Isa alayhi salam est le fils de Dieu, cela veut automatiquement dire qu'il l'adore. J'espère que c'est plus clair pour vous, cher Inch'Allah.
Nous, non, nous on ne dit pas que le fait que de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est un fils qui s'appelle Jésus, que ça veut dire on l'a adoré. Même si beaucoup l'adorent, en ce sens qu'ils disent que, yani, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le voir. Non. Et que je parle de ceux qui ont vécu au temps de Jésus. Donc autant, en adorant son fils, on a adoré Dieu. Mais nous on dit que. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que toute personne qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a un fils, cette personne est devenue mécréante. Non. D'après les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala a dit que Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qu'Allah ta'ala n'a ni engendré ni a été engendré. Donc si quelqu'un dit que Allah ta'ala a engendré un fils, donc, il a renié le Coran. Il a dit que je ne crois pas au Coran, donc il est devenu kafir. Allah a dit, j'ai pas de fils, et quelqu'un a un fils, il s'appelle Jésus ou autre. Donc, il est devenu mécréant en disant ainsi. Même si Allah a un fils, mais j'adore pas ce fils, j'adore Allah. On lui dit, l'Éternel, l'Éternel. Enfer, l'éternel enfer. Naam. Tfadlal.
Elle demande, cher, si vous avez un conseil, comment expliquer aux kuffars qu'Allah Azzawajal n'a pas de fils? Donc, quand on leur fait da'wah, comment leur expliquer? Barakallahu fikoum, cher.
On leur explique que, on leur dit, premièrement, voilà ce qu'il y a dans le Coran, il y a que Allah Ta'ala n'a pas de fils. Et deuxièmement, logiquement, logiquement. Avoir un fils, c'est un défaut chez Allah et c'est une perfection chez nous. Chez nous, avoir des enfants, c'est quelque chose de bien. C'est pour ça que celui qui n'a, on peut le pas le blâmer, mais on peut le dire que c'est un défaut par rapport à lui. Pas veut se marier avec une femme qui donne des enfants. Donc l'enfant, par rapport à l'être humain, c'est quelque chose de, c'est une qualité. Ensuite, pourquoi on veut avoir des enfants? Pour laisser notre trace, la progéniture. Ensuite, les enfants, quand ils vont grandir, ils vont nous aider, surtout dans la société musulmane. L'enfant, il obéit à ses parents, il les aide, etc., etc. C'est pas comme dans les sociétés des kofars. L'enfant, qui quoi? Yani, dès qu'il a 16 ou 18 ans, on lui dit, va faire ta vie. Allez, sors de chez moi. Et ensuite, l'enfant, quand il va grandir lui aussi, s'il va rencontrer son père ou sa mère ils sont vieux et vieilles, il va pas les accepter, il va les jeter dans un asile. Ou je sais pas comment ça s'appelle le centre là où il y a les vieux et les vieillards. El Mohim, par rapport à Allah Ta'ala, non. Avoir un enfant, c'est un défaut. Car pour avoir un enfant, d'abord, il faut une femme. Non, mais Allah Ta'ala n'a pas de femme, n'a pas de compagne. Pas une maison de retraite, voilà. Même si Allah Ta'ala peut avoir d'enfants, mais Allah Ta'ala n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'enfants pour qu'il l'aide. Naam, il se suffit à lui-même. C'est lui le créateur. Naam, c'est lui le créateur de toutes choses et de tous les mondes, le monde des humains, des animaux, de tout. Naam, il se suffit à lui-même et n'a besoin de pour le continuer. Naam. Donc avoir besoin d'un enfant, c'est un défaut par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala n'a pas de défaut. Contrairement à, par exemple, aux non. C'est pour cela que ce n'est pas toute qualité pour nous qui sera une qualité. Non. Pour nous, avoir un enfant, c'est une qualité. Mais pour Allah, c'est avoir un enfant, c'est un défaut. Comme pour nous, pour Mir, c'est une qualité. C'est quelqu'un de mal. Il a des un défaut aller chez le médecin pour dormir. Mais pour Allah, le fait de dormir. Donc des fois, des choses sont des qualités pour nous.
Ça coupait chez moi, cher. Est-ce que vous avez fini, cher Afouane, hein? À la fin, ça a coupé un petit peu chez moi. Alhamdoulilah. Donc je vais juste poser une autre question. Question d'une sœur qui demande, ma question concerne le soleil et la lune. Naam, tfadlou le cheikh.
Naam, quand tu as dit que ça avait coupé chez toi, etc., je voulais juste être sûr. Maintenant, je parle aux autres. À part à vous inquiéter. Est-ce que vous m'avez entendu parler du sommeil? Le sommeil, que c'était un défaut par rapport à Allah et une qualité par Fawzi, tu confirmes que vous m'avez entendu parler du sommeil, sur le sommeil. Que Allah Ta'ala, pour lui, c'était un défaut. Et que pour nous, c'est une qualité. Hein, Fawzi? Non, tout à l'heure, tu avais dit oui. Maalesh, avec des coupures, maalesh. Donc, j'avais dit que pour le sommeil aussi, c'était un défaut pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour nous, une qualité. Que quelqu'un qui ne dormait pas, hein, ça veut dire qu'il n'est pas normal. Alors que pour Allah, c'est un défaut. La même chose pour l'enfant. Celui qui n'a pas d'enfant parmi nous, c'est un défaut. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une qualité de ne pas avoir d'enfant. Tfadlak.
Barakallahu fikoum, cher. C'était beaucoup plus clair. Donc, question suivante, question d'une sœur qui demande, ma question concerne le soleil et la lune qui seront en enfer. Je voulais savoir si ça sera un châtiment pour les habitants de l'enfer ou un combustible pour alimenter le feu de l'enfer. Barakallahu fikoum, cher.
Une seconde, je vais vous ramener un verset qui est très important avec cette question, inshallah ta'ala. Une seconde. Une seconde. D'ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala va faire rentrer le soleil et la lune en enfer, dans un autre hadith sous forme de taureau, spécialement pour montrer aux kuffars que si ceux-là que vous adoriez dans la vie, s'ils étaient vraiment des dieux, alors ils ne seraient pas allés en enfer. Non. Un dieu ne va pas en enfer. Un dieu fait rentrer d'autres personnes et des gens en enfer. Mais lui, il ne va pas en enfer. C'est impossible. Donc, c'est pour établir sur eux la preuve. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, regardez ce verset. Innakum wa ma ta'budun min dunillah حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نعم. Regardez en français ce que ça donne. Il a dit, vous serez vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. Naam. Ensuite, il a dit, Naam, 98, 99, une seconde. Il a dit, si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas. Et tous y demeureront éternellement. Voilà. Allah Ta'ala maintenant à quoi? A établi la preuve sur eux. Il a dit, si vraiment cela était des divinités, ils ne seraient pas entrés en enfer. Ça veut dire que tant qu'ils sont rentrés en enfer, ce ne sont pas des divinités. Des divinités. Vous avez perdu. Vous avez perdu. C'est pour cela que ils iront éternellement en enfer. Walayadu billah.
Parce que j'ai vu Ibn Mohamed prendre le micro, donc je pensais qu'il avait quelque chose à dire. Ibn Mohamed, c'est bon, Inch'Allah? Ah. Donc, question suivante, question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaous, cher, ainsi que votre famille et aux admins. Amen. Est-ce une bid'a de dire Masha'Allah contre le mauvais œil? Si oui, que faut-il dire à la place? Et à quel moment pouvons-nous utiliser Masha'Allah? Jazakumullah khayran. Tfadal cher.
Contre le mauvais œil, on doit faire l'adhkar. Adhkar du matin et du soir, l'âme. Et si on voit quelque chose, par exemple, quelqu'un qui nous regarde comme ça avec un mauvais œil, on dit A'oudhu bi kalimatillahi tamma, A'oudhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. A'oudhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Et pour que maintenant nous, on ne frappe pas les autres d'un mauvais œil, si on voit quelque chose qui nous plaît chez une personne, ou là une voiture, ou là une personne qui est belle, ou là, c'est nous qui disions, on va dire quoi? On va dire Allahumma barik. Naam, Allahumma barik. C'est obligé que la personne nous entende. Mais, naam, on l'a dit entre nos lèvres par exemple. On dit à Allah barik à cette personne en cette chose. En sa voiture, ou là, en son enfant, ou là, on fait des doigts comme ça pour demander à Allah Ta'ala de yani, lui faire la baraka. Comme a dit le prophète, il a dit, pourquoi vous tuez votre frère? Pour quelqu'un qui a vu quelqu'un, et sa peau était vraiment blanche et belle, en train de prendre une douche, et il n'a pas dit Allahumma barik. Et la personne est tombée, évanouie, presque morte. Ensuite, Ali Sassem, il a dit, pourquoi l'un de vous tue les autres? Pourquoi quand il voit comme ça une chose, il ne dit pas Allahumma barak. Pourquoi il ne fait pas la baraka? Naam. Et quand une chose nous plaît, naam, et qu'on sent qu'on ne va pas faire le hasad, on n'a pas senti dans le cœur qu'on ne voudrait pas cette chose qu'elle dure, etc. Une chose qu'elle est masha'Allah, ça se dit. Naam. On dit d'une chose qu'elle est masha'Allah, ça veut dire qu'elle est belle et qu'elle est plaisante et qu'elle plaît. Naam. C'est possible de dire comme ça. Mais si on sent quelque chose dans le cœur et on a peur même de le frapper du mauvais œil, on doit demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse la baraka sur cette chose. Tfadlal.
Question suivante, question d'un frère. Ahsanallahu alaykoum, cher. Il y a quelques mois, j'ai écouté un de vos douros, à la fin duquel la question suivante vous a été posée. Est-il vrai que les mauvaises pensées et mauvaises intentions que l'on a au fond du cœur ne sont pas comptées comme péché, sauf à Mecca et Médina? Question à laquelle vous avez répondu. Ceci est une parole d'ignorance, car si c'était vrai, tous les musulmans fuiraient ces villes saintes de peur qu'Allah les châtisse pour ses mauvaises intentions. Je précise que ce n'étaient pas exactement ces mots qui ont été employés, mais la question et la réponse vont dans ce sens. Mais je suis tombé par hasard récemment sur une parole de Cheikh Mohamed El-Amin El-Eschenk. Celui qui a l'intention de commettre un péché à la Mecque, Allah lui fait goûter le châtiment douloureux à cause de cette intention, même s'il n'a pas fait le péché. Contrairement aux endroits autres que le haram de la Mecque, dans lesquels il n'y a pas de châtiment pour l'intention uniquement. Et donc il donne la référence à Adwa al-Bayan, volume 5, page 63. Allahu a'lam, mais le cheikh a dit cette parole en se référant au verset 25 de Sourate Al-Hajj concernant le haram de la Mecque, et celui qui veut y commettre du ilhed et de l'injustice, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Alors, est-ce moi qui ai mal compris votre réponse, ou est-ce que la parole du cheikh est la réponse correcte à donner à la question qui vous a été posée? Éclairez-moi, min fadlikoum, wa hayakoumoullah. Tfadal, cheikh.
C'est possible, inshallah ta'ala, de me redire c'était quoi la question qu'on m'avait posée. Pas la réponse. La question, c'est tout. Tfadlal.
Non, donc la question, je vous la répète, inshallah. Est-il vrai que les mauvaises pensées et mauvaises intentions que l'on a au fond du cœur ne sont pas comptées comme péché, sauf à Mecca et Médina? Fadashir.
Donc je dis que la règle, la règle, il faut bien comprendre cette règle, inchallah, toute personne qui met dans l'intention, en général, maintenant je ne parle pas du haram, non, je ne parle pas du haram, toute personne qui met dans l'intention de faire du mal ou du dhulm, non, à une personne, par exemple, ou du tort, ensuite, Naam. Ne la fait pas, on va voir. Si elle n'a pas fait cette chose qui est du mal, etc., parce qu'elle n'a pas pu la faire, elle n'a pas pu, elle voulait la faire, elle n'a pas pu. Dans ce cas-là, Allah lui inscrit un péché. Contre, elle a délaissé cette chose, elle n'a pas faite, on va voir maintenant pourquoi elle ne l'a pas faite. Si elle l'a pas faite, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle n'a pas pu, elle n'a pas pu, elle a voulu, mais elle n'a pas pu. Elle a toujours le péché. Mais si elle l'a délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, elle aura même quoi? Elle aura une récompense d'après le hadith authentique. Car le fait de délaisser une chose pour Allah, ça veut dire que tu as fait une chose. Tu as fait, il y en a une adoration. C'est pour cela que quiconque délaisse une chose de mal qu'il voulait faire, mais la délaisse pour Allah, Allah va lui donner des récompenses, au moins une. Au moins une récompense jusqu'à 10 et on monte, parce qu'une récompense, ça devient 10. Mais si par contre il délaisse le mal, parce qu'il n'a pas pu le faire, mais il voulait le faire, dans ce cas, il a quoi? Il a un péché. Non. Car pourquoi? Car il n'a pas délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, maintenant, ça c'est en général. Mais si c'est spécialement pour le haram, si c'est spécialement pour le haram, le fait seulement d'avoir dans l'aniya de faire le mal, même s'il me délaisse, il aura quoi? Il aura le péché. Et ça, c'est spécialement à cause de qu'il y a un verset spécialement pour le haram, comme l'a cité le frère tout à l'heure. Et c'est où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ Je crois que le frère parle de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ça c'est spécialement pour yani le haram. Pour le haram. Naam. Et ce n'est pas pour les autres endroits. Bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est cela la réponse correcte. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadlal.
Alors, question suivante, question d'une sœur. Une sœur souhaite avoir des précisions au sujet de la mixité, car effectivement, j'ai lu beaucoup de textes, hadiths et athars, qui montrent que dans certaines circonstances, les femmes ont parlé aux hommes et vice-versa. J'aimerais comprendre. Je me rappelle du hadith d'Abu Senabil qui décrit un compagnon et une compagnonne qui se parlent. Pourriez-vous m'expliquer, cher, s'il vous plaît? Wa jazakumullahu khairan. Cher.
Non, en fait, ce qui est interdit, c'est quoi? C'est de rester en tête à tête. Il y a un homme avec une femme en tête à tête, ça c'est interdit. Mais maintenant, s'ils ne sont pas en tête à tête, ce n'est pas dit de se parler. Ce n'est pas interdit de se parler s'il y a besoin. S'il y a besoin. Sinon, si on va voir les textes, il y a des Sahaba et du prophète Aslam, avec les femmes avec lesquelles il a parlé, les Sahaba. Combien qu'ils ont parlé avec les femmes, combien qu'ils ont parlé avec d'hommes, ça va pas en finir. Mais on parle quand il y a un besoin ou une nécessité. C'est-à-dire, c'est pas sans rien, je n'ai rien à faire, je vais voir une sœur, je vais parler avec elle. Non. Mais s'il y a nécessité de parler, demander où se trouve la rue, non, ou bien est-ce que vous êtes la femme de Y, ou bien est-ce que c'est vous la mère de cet enfant? Est-ce que c'est vous qui avez perdu ce porte-monnaie? Est-ce que c'est ceci, cela? Non, et je demande, ce n'est pas interdit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit aux femmes de parler aux hommes, mais il leur a dit, si vous parlez, il ne faut pas parler avec complaisance, et yani, rendre votre voix belle, etc. C'est pour ça que les savants ont dit, le fait qu'Allah ta'ala est interdit de parler de cette façon aux hommes, veut dire que si on ne parle pas de cette façon, c'est permis. Si on ne parle pas de cette façon, c'est permis. C'est pour ça que les savants disent et ont tiré une règle. On dit Nafyul khas yadullu ala ithbat al-am. Non, le fait d'interdire le particulier veut dire la permission du général. Quand je te dis c'est interdit de manger les oranges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est permis de manger les bananes et les fraises. Sinon, je ne t'aurais pas dit c'est interdit de manger les oranges. Je t'aurais dit c'est interdit de manger les fruits. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, quand il a dit c'est interdit à la femme qu'elle parle avec complaisance. Ça veut dire que c'est permis qu'elle parle si ce n'est pas avec complaisance. Sinon, il aurait dit non, c'est interdit de parler en général aux hommes. Vous avez compris? Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. C'est quoi la dernière question?
Une dernière question, Inch'Allah. Ce ne sera pas pour le divorce, cher. Donc, une sœur demande. Si une sœur demande si elle peut acheter une terre avec son argent dans un pays musulman pour l'avenir, mais sans que son mari ne soit au courant. Et si elle lui dit et qu'il ne veut pas, a-t-elle le droit d'acheter quand même? Barakallahu fikoum. Tfadhal cher.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Cheikh Al-Albani a dit ce hadith qu'il était authentique, que c'était pas permis à une femme, Allah Ta'ala au jour dernier, de dépenser son argent sans que son mari ne soit au courant. Ensuite, ici, les savants ont divergé. Certains ont dit si ça dépasse le un tiers. D'autres ont dit, non, si c'est elle le dépasse dans le haram, et comme ça. Mais, nous, pour sortir, Inch'Allah Ta'ala, des divergences, on va dire, si le mari de la femme lui a donné en général, comment dirais-je, une autorisation générale. Elle sait que son mari, à chaque fois qu'elle a l'habitude d'acheter des choses ou de faire des choses, il lui dit pas qu'est-ce que tu as fait de ton argent. Donc, ça veut dire que c'est comme. C'est comme s'il lui a dit, fais ton argent ce que tu veux. Il lui a donné l'autorisation. Donc l'autorisation, c'est ou bien que le mari dise à sa femme, tu es libre, fais ton argent ce que tu veux. Bien qu'il la voie faire des choses, etc., il lui dit rien. Ça aussi, c'est une autorisation. Mais en général, la femme, surtout quand elle achète une chose, des choses, comment qu'on appelle ça, des choses importantes. Non, mais chères. Même si c'est avec son argent. Il vaut mieux qu'elle applique le hadith et qu'elle lui demande l'autorisation. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme, quand on l'épouse, c'est pour une des quatre choses. Il a cité la beauté, il a cité les biens, l'argent, etc. Il a cité le statut social, il a cité la religion. Ensuite, il a dit, épouse la religieuse. Donc ici, il a cité aussi les biens. Il a dit, il est possible qu'une personne épouse une femme à cause de ses biens. Donc maintenant, moi, si jamais j'ai épousé mon épouse à cause des biens, qu'elle est riche, etc. Donc, que son argent ne parte pas à gauche et à droite. Moi, je l'ai épousé à cause de cela. Les savants ont dit, donc maintenant, quand ma femme va acheter des choses sans que je sois au courant, elle va acheter un morceau de terre, je ne sais où, un immeuble, je ne sais où, une société, je ne sais où. Ensuite, moi, demain, quand je vais apprendre ça, il est possible que je m'énerve et ça va découler quoi? Il est possible que je la divorce. Je dis celle-là, donc elle fait tout sur mon dos. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, elle ne me demande jamais la permission. Donc, celle-là, je vois pas pourquoi je suis avec elle. Normalement, la femme, c'est celle qui demande à son mari, même si c'est son argent. Elle lui dit, qu'est-ce que tu penses? Je voudrais faire telle et telle chose, acheter telle chose, etc. Comme ça, elle ne sera pas... Non, il sera pas, yani, comment qu'on dit ça, yani, sans qu'il sache. Sans qu'il sache qu'elle a telle chose, et elle a acheté telle chose, et telle chose. Ça peut être une cause, ça peut être une cause pour que, yani, ça ne marche plus entre les deux et que les problèmes commencent. Et surtout qu'il y a un hadith que je viens de citer. Le mieux serait, Allahu ta'ala alam, qu'elle lui demande son avis. Non, c'est mieux et c'est encore mieux pour l'union et pour le couple et pour l'entente. Et lui, il dit, voilà ma femme, subhanallah, même si c'est son argent, mais quand même, elle me demande, yani, mon avis, etc. Wallahu ta'ala alam. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi. Subhanakallahumma bihamdik. Shahadu la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.